Il est 8h.
Quand son nom est apparu sur Internet, je m'y suis repris à 10 ou 20 fois pour relire ce nom et me dire « mais c'est pas possible, c'est arrivé à Samuel ».
Il l'appelle juste par son prénom, Samuel. Il avait passé sa jeunesse avec lui à quelques heures de l'hommage national. Un ami de Samuel Paty décrit à Europe 1 un homme d'une curiosité infinie qui aurait aimé apprendre tout sur tout. Alors que l'éducation nationale tout entière est meurtrie par cet assassinat, nous verrons ce que le corps enseignant attend du président de la République à la Sorbonne ce soir. On est très très limite dès maintenant. Les mots sont ceux du chef d'un service de réa à Paris. 100% de ces lits sont déjà pris par des patients Covid. Dans ce journal, Black Lives Matter, les vies noires comptent. Leur vote aussi. Joe Biden va-t-il réussir à mobiliser les Afro-Américains? Il a besoin d'eux pour devenir président des États-Unis. Et puis, 10% plus 10%, nous voilà déjà à la quatrième saison de la série française qui cartonne. Extrait et coulisses à la fin du journal.
Juste après ce journal, l'hommage cet après-midi, le débat politique déjà depuis plusieurs jours. C'est sa première interview depuis l'assassinat de Samuel Paty, Marine Le Pen qui appelle à une législation de guerre. La présidente du Rassemblement National au micro de Sonia Mabrouk à 8h15.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Cela fait 5 jours que l'on parle partout en France de Samuel Paty, celui qui sera fait ce soir commandeur des Palmes académiques, décoré de la Légion d'honneur. N'était qu'un prof parmi 800 000 autres. Le voilà aujourd'hui symbole d'une liberté d'expression à défendre. Et vous allez comprendre un peu mieux ce matin qui était Samuel Paty avec le témoignage de celui qui fut son meilleur ami.
C'était au moment du lycée. 3 années passées ensemble jusqu'au bac littéraire à Moulins. Cet homme que vous allez entendre et qui a souhaité garder l'anonymat confie ses souvenirs à Jean-Gabriel Bourgeois, et sa détresse toujours aussi vive.
Samedi dernier, en début d'après-midi, quand son nom est apparu sur Internet, je m'y suis repris à 10 ou 20 fois pour relire ce nom et me dire « mais c'est pas possible, c'est arrivé à Samuel ». Oui, j'ai eu besoin d'en parler. J'ai eu besoin de dire que cette personne, je la connaissais, que j'étais très touché. Parce que c'était pas le simple camarade qui était assis 3 rangs derrière, non, c'était celui qui occupait la place à côté de moi. Bien sûr, je suis très très peiné pour leur famille. Je pense sans arrêt à eux. Il m'arrive de me réveiller la nuit et mes premières pensées vont vers eux, le petit garçon de Samuel, ses parents. Comment peut-on se remettre d'une telle atrocité ? On formait un binôme, on était la plupart du temps assis l'un à côté de l'autre. On rigolait ensemble, on travaillait ensemble, parfois on réfléchissait ensemble. Un jour il a dit « je souhaiterais savoir tout sur tout ». Donc ça en disait long sur sa curiosité et sa soif de connaissances.
Il faut se mettre à sa place. Hein. Aussi, c'est aussi ça l'effet des médias, de cette émotion collective. Il apprend à la radio que cet homme tué, que ce prof décapité, c'était son ami d'enfance. Ce témoignage qui nous permet aussi de mieux connaître Samuel Paty, vous pouvez le réécouter sur europe1.fr.
Et comme en écho à ce que l'on entendait à l'instant, il y a ces mots de Brigitte Macron dans une lettre hommage que publie Le Parisien ce matin. « Être prof, dit-elle, c'est repérer une lueur que l'on a pu allumer dans les yeux des élèves, c'est développer leur esprit critique pour les rendre libres. » Les profs, justement, ils seront représentés ce soir dans la cour de la Sorbonne sous le regard des statues de Victor Hugo, de Louis Pasteur. Pour Europe 1, Virginie Riva a interrogé plusieurs enseignants sur leurs attentes pour ce soir.
Après la sidération de toute la profession, l'hommage qui sera rendu ce soir doit d'abord être pour les enseignants un hommage personnel à Samuel Paty et au-delà une adresse à tous les professeurs de France. Frédéric Marchand, secrétaire général de l'UNSA Éducation.
Que le président de la République exprime pour l'ensemble de la communauté éducative ce soutien de la nation à son école, à ses enseignants, c'est important.
Le ministère de l'Éducation nationale a suggéré la lecture de la lettre d'Albert Camus à son instituteur, écrite en remerciement peu de temps après son Nobel, pour réaffirmer le rôle central de l'enseignant dans la République. Oui, mais il faut que le président en tire des leçons, explique Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES.
Ça suppose qu'on aide les enseignants à faire leur métier, qu'on leur assure aussi toute protection et tout soutien quand ils rencontrent des difficultés puis que conduire à des drames comme ça a été le cas pour Samuel.
Ce soir, les enseignants se rassembleront un peu partout en France, en Bretagne, dans l'Indre, dans les Pyrénées-Atlantiques notamment, pour s'associer à l'hommage dans la cour d'honneur de la Sorbonne.
Dans l'enquête sur cet attentat, les 16 gardes à vue ont été levés hier soir. 7 personnes seront présentées aujourd'hui à un juge.
Notamment ce parent d'élève qui avait appelé à la mobilisation contre Samuel Paty, ainsi que 2 collégiens soupçonnés d'avoir reçu de l'argent de l'assaillant. On note aussi cette phrase glaçante de celui qui est ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin prévient « La question n'est pas de savoir s'il y aura encore un attentat, mais quand ?» C'est ce qu'il déclarait hier soir à la télévision.
8h05 sur Europe 1. La deuxième vague du coronavirus commence à monter très haut en France, particulièrement en région parisienne.
660 patients en réanimation en Ile-de-France et les lits dédiés qui s'épuisent. C'est déjà le cas à l'hôpital Bichat à Paris, annonçait ce matin sur Europe 1 le professeur Jean-François Timsit en parlant du taux d'occupation de son service.
C'est 100%. Il va falloir commencer à pousser les murs. Notre seule marge de manœuvre est de déprogrammer de la chirurgie qui peut attendre un peu. On va arriver à une certaine saturation du système sanitaire avec pas beaucoup de possibilités de renfort de l'extérieur. Donc on est assez inquiet sur la possibilité de faire monter le nombre de lits de réanimation en France à des niveaux très très élevés. Les 12 000, on les atteindra jamais, mais déjà réatteindre les 8 000 qu'on avait atteint début avril va être extrêmement complexe. Tout le monde est mobilisé pour essayer d'aider au mieux, faire vraiment attention dans la sphère privée, d'essayer de limiter au maximum les contaminations. Chaque jour, quand j'entends 30 000, ça veut dire 200 à 300 nouveaux décès dans 3 semaines.
Jean-François Timsit, chef du service de réanimation sur l'hôpital Bichat. C'était ce matin en direct à 6h40 au micro de Sébastien Krebs sur Europe 1.
Aux États-Unis, un ancien président va faire campagne aujourd'hui. Barack Obama sur le terrain pour la première fois en faveur bien sûr de Joe Biden. Ce sera à Philadelphie où il devrait insister sur l'importance du vote des Afro-Américains.
Et ce vote, c'est le thème de notre carnet de route de la présidentielle américaine. American Election. Avec Théo Manval, comme chaque matin à 8h dans le Wisconsin aujourd'hui. Bonjour Théo.
Bonjour à tous.
C'est aussi un état clé, hein, le Wisconsin, avec un vote qui s'annonce serré. Joe Biden a besoin du vote de la population noire. On se souvient de toute la colère exprimée lors du mouvement Black Lives Matter.
Théo, vous êtes à Kenosha, une ville secouée par des affrontements cet été, après qu'un policier blanc a tiré 7 fois dans le dos d'un homme noir, Jacob Blake.
Oui, et la ville porte encore les stigmates des nuits d'émeutes qui ont suivi et qui ont fait 2 morts, des dizaines de carcasses de voitures calcinées encore sur les parkings, presque tous les magasins du centre-ville toujours calfeutrés, derrière de grandes plaques en bois recouvertes de tags Black Lives Matter. On sent encore cette colère qui anime notamment Cheryl et elle compte bien la porter jusque dans les urnes.
Oui, j'irai voter. On ne peut pas continuer à survivre comme on le fait jusqu'à présent. Tout ce racisme, ce qui s'est passé ici, ils ont tiré 7 fois sur Jacob Blake dans son dos alors qu'il retournait à sa voiture. Il faut que ça change et pour ça je crois en Joe Biden. Il prend position contre le racisme systématique.
L'ancien bras droit d'Obama aura son vote. Elle a vérifié qu'elle était bien enregistrée sur les listes électorales grâce aux associations de quartier comme celle de Greg. Lui aussi veut croire que le mouvement Black Lives Matter pourra mener à plus de Black Voters.
On a inscrit plus d'un millier de personnes sur les listes. Mais j'ai aussi 30% des gens qui me disent « j'irai pas cette fois-ci ». J'ai toujours voté, j'ai manifesté, mais regarde à quoi ça a mené. George Floyd s'est fait tuer dans le Minnesota. Jacob Blake s'est fait tirer dessus ici. Mais on doit convaincre ces 30%, les ramener peut-être à 15%. Il faut voter, voter, voter.
Un effort qu'il dirige notamment en direction des plus jeunes, dont l'énergie laisse parfois déjà place à la lassitude, comme pour Derino, tout juste majeur, et déjà désabusé.
Voter pour moi, ça sert à rien. Il n'y aura aucun changement. Ce sera toujours dur de trouver un boulot comparé aux blancs. Les policiers sont toujours agressifs avec nous. On a eu Obama et même ça, ça n'a rien changé.
Mais dans tout le pays, les chiffres sont là. En Caroline du Nord, en Géorgie, où le vote anticipé a commencé, la participation de l'électorat noir atteint des sommets dès les premiers jours. Ici, une marche a rassemblé hier des centaines de personnes pour appeler à voter le 3 novembre. Trump a remporté le Wisconsin pour moins de 30 000 voix la dernière fois, rappelle Cheryl. Chaque vote va compter.
Théo Manval dans le Wisconsin aux États-Unis. Et demain, Théo, ce vote par courrier que Donald Trump accuse de tous les maux, vous nous en parlerez dans le journal de 8h. Nous serons au matin du nouveau débat avec Joe Biden.
Vous restez bien avec nous. Dans un instant, le retour de la bande infernale de 10%. La saison 4 de la série démarre ce soir sur France 2.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h11, la suite du journal, François Geffrier.
10%, c'est l'histoire d'une série qui cartonne, qui n'est pas américaine et même particulièrement française. 10%, saison 4, diffusée ce soir sur France 2, qui nous raconte le quotidien d'agents de stars.
Et nous accueillons Eva Rock, notre spécialiste série. Bonjour Eva.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
La série est réputée entre autres pour la qualité de ses personnages, plus vrais que nature.
On est bien d'accord, les comédiennes et comédiens chouchoutés par les agents, ils sont décrits comme capricieux, misanthropes, angoissés, voire les trois à la fois. popularité de la série, les stars jouent leur propre rôle avec beaucoup d'autodérision, comme Charlotte Gainsbourg ce soir. Elle a accepté de tourner dans le film de son meilleur ami, même si elle sait que cela risque d'être un naufrage. Conversation avec son agent, Andrea.
Je vais rien lui dire, je vais le faire ce film.
Quoi ?
Et au final, ce sera peut-être bien.
Charlotte, là, ça va être un navet.
Mais alors, tout le monde fait des navets. Il y en a, c'est pour payer leurs impôts, ben moi, ce sera par amitié.
Alors, dans cette saison 4, vous aurez également rendez-vous avec Sandrine Kimberlin, Muriel Robin, Jean Reno, Franck Dubosc et José Garcia.
Est-ce qu'il y aura une saison 5 ?
Alors, regardez le dernier épisode, tel qu'il est écrit, on se dit que non. Sauf que réalisateurs et comédiens ont très envie de prolonger l'aventure au moment où, par ailleurs, des stars internationales rejoignent la série avec un immense plaisir. C'est le cas de Sigourney Weaver, invitée de l'épisode 5, qui offre un numéro de danse digne d'une comédie musicale sur cette terre. Et 10%, c'est 6 épisodes à voir sur France 2 tous les mercredis et les 3 précédentes saisons sont disponibles sur Netflix.
Un air de Marseillaise un peu jazzy, c'est ça ?
Oui, on peut dire ça comme ça.
Merci. Pour tout savoir sur cette nouvelle saison de 10%, on télécharge le podcast Sériland. J'ai entendu un podcast hier mis en ligne avec,
avec Christelle Graillot. Exactement.
En l'occurrence, qui nous dit que c'est plus vrai que nature. Merci beaucoup, Eva Rock.
Ça s'appelle donc Sériland, votre podcast. À propos de loi des séries, le PSG trébuche de nouveau face à Manchester United. Défaite à domicile 2-1 hier soir en Ligue des Champions.
C'est dommage, on finissait bien ce journal.
Rennes a fait match nul un partout face aux Russes du FC Krasnodar.
Merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Il est 8h13.